Poussez, s'il vous plaît. Êtes-vous heureux? Mais dis, qu'est-ce que ça peut vous faire?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue pour vos Chroniques Terriennes. Chroniques Terriennes, émission animée et réalisée par Eric Kolz, tous les lundis sur les antennes de Radio Pays d'Aurillac, de 21h à 22h, en rediffusion le samedi de 20h à 21h. Retrouvez l'émission d'aujourd'hui et les émissions précédentes sur la chaîne YouTube Chroniques Terriennes. Un sujet vous passionne, vous souhaitez vous exprimer à la radio, rien de plus simple. Contactez-moi au 07 69 25 96 69 ou bien par Instagram Chroniques Terriennes 15. Le 23 février dernier, au Prisme à Aurillac, s'est tenu le 13e forum des métiers et de la formation Cantal. J'ai baladé mon micro dans les allées de ce forum où j'ai interviewé quelques exposants. Je n'ai malheureusement pas pu interroger tout le monde. Notre émission est bien trop courte. À l'initiative de la CCI du Cantal et de l'éducation nationale, ce forum 2023 n'est pas seulement destiné aux jeunes, mais aussi aux demandeurs d'emploi. J'ai demandé à Laurent Ladoux, président de la Chambre de commerce et d'industrie, s'il était satisfait de cette nouvelle édition.
Alors oui, effectivement, on est très content d'organiser ce forum avec l'éducation nationale et les centres de formation. Ça correspond pour le monde des entreprises à un besoin, effectivement, de faire connaître les métiers de nos entreprises du territoire, de montrer quels seront les métiers d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, les entreprises recrutent, tant que la situation économique est plutôt favorable, hein, parce qu'il faut quand même avoir une réserve là-dessus, mais on va rester optimiste dans le domaine. Donc ça permet à tous ces jeunes de venir se faire une idée, de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, d'échanger avec les professionnels et d'échanger aussi avec les centres de formation, les lycées, voir toutes les formations qui peuvent se mettre en place pour se projeter dans le futur et essayer de trouver sa voie professionnelle, sachant qu'on est dans un monde tellement incertain et qui évolue à une vitesse incroyable que les envies d'un jour ne sont pas forcément les réalités du lendemain.
Cette année, vous donnez surtout la priorité aux démonstrations.
Effectivement, c'est pas facile de vendre un emploi en étant assis sur une chaise et en montant des beaux slides. Donc on a demandé aux entreprises de mettre des cas pratiques, de mettre en évidence quels peuvent être les métiers. Donc il y aura diverses démonstrations. Hein, ça va du simulateur de conduite à des opérations, dans le bâtiment. Donc on a demandé aux entreprises de faire preuve un peu d'innovation en la matière.
Nouveauté cette année, ce salon est ouvert aussi aux demandeurs d'emploi.
Tout à fait. Effectivement, c'était une demande de la plupart des entreprises, quitte à faire un forum de l'emploi, vu qu'il y a un certain nombre de métiers en tension. Enfin, toutes les entreprises recrutent. C'était l'opportunité pour elles, dans un second temps, de rencontrer des demandeurs d'emploi qui pourraient être éventuellement intéressés par les postes proposés à l'heure actuelle. Donc c'est à la fois un forum dédié aux jeunes prioritairement, mais aux demandeurs d'emploi. Donc on espère que ça aura du succès aussi de ce côté-là.
Présent pour la première fois à ce forum, Pôle emploi tenait un stand. Je vous invite à écouter son directeur.
Sébastien Forer-Rouquier, directeur de Pôle emploi Cantal.
Pôle emploi Cantal, en ce moment, pour vous, ça doit être un peu tendu, puisque, comme me disait Laurent Ladoux, président de la CCI, toutes les entreprises du Cantal, ou presque, recrutent.
Oui, on a une dynamique des recrutements qui est plutôt positive dans le département, ce qui a pour effet de créer des difficultés pour recruter, qui se généralisent, qui ne sont pas que sur un secteur. Et en même temps, on a des demandeurs d'emploi qui, pour certains, ont besoin de changer de métier et donc d'acquérir des compétences. D'autres qui ont des difficultés parce qu'ils ont eu un accident de la vie et pour lesquels il y a besoin de beaucoup accompagner pour pouvoir réussir un retour à l'emploi.
Oui, parce qu'on l'oublie souvent, mais Pôle emploi, ce n'est pas simplement pour de la recherche d'emploi, c'est aussi éventuellement pour changer de carrière, d'orientation professionnelle.
Aujourd'hui, dans le Cantal, quand un demandeur d'emploi trouve du travail, plus d'une fois sur deux, ça n'est pas dans le métier qu'il occupait précédemment. Ça veut dire qu'être capable de se réorienter, de se former, de pouvoir saisir de nouvelles opportunités, c'est ça qui fait aujourd'hui la majorité des retours à l'emploi des demandeurs d'emploi.
Donc, beaucoup de demandes de formation, je suppose ?
Oui, nous avons beaucoup de demandes de formation. Pour caler quels sont les besoins de formation, nous essayons de développer les immersions en entreprise pour voir en vrai quelles sont les compétences nécessaires, les conditions de travail, la manière dont on exerce un métier. Et puis aussi, on essaye d'accompagner sur tous ces à côté qui facilitent le retour à l'emploi ou qui au contraire le rendent plus difficile si on ne s'en occupe pas. Ça peut être la garde des enfants, ça peut être la mobilité géographique. On est dans un département rural où il n'y a pas une offre de transport collectif dense. Ça peut être toutes ces choses-là qui doivent être travaillées avec les demandeurs d'emploi pour chercher des solutions, parce que sans ça, le retour à l'emploi n'est pas possible.
Parlons un peu chiffres. Sur le Cantal, quel est le taux de chômage, vous le savez ?
Nous avons un taux de chômage qui est autour de 4%, 4,1%. C'est le plus faible de France.
4,1%.
Oui.
Effectivement, on sait ce qu'on considère comme du plein emploi.
Alors, c'est ce qu'on considère comme étant du plein emploi. Et en même temps, les demandeurs d'emploi, c'est un flux. Ça veut dire que tous les mois, plusieurs centaines d'entre eux trouvent du travail et tous les mois, plusieurs centaines d'entre eux s'inscrivent. Ça veut dire que nous avons affaire à des gens qui sont aussi en situation d'évolution chaque mois.
Est-ce que vous avez constaté le fait que de plus en plus de jeunes souhaitent plus des CDD que des CDI ?
On a constaté que de plus en plus de jeunes ne savent pas ce qu'ils souhaitent et qu'ils changent d'avis. Ils n'ont pas forcément une vision des choses linéaire sur toute une carrière. Et donc on a beaucoup de jeunes qui ont besoin de découvrir des choses nouvelles parce qu'ils ont envie de nouveautés. On a aussi découvert que beaucoup de jeunes, mais aussi de moins jeunes, réclament davantage des métiers qui font sens. C'est-à-dire qu'un métier, ce n'est pas qu'un moyen de subsistance, ce n'est pas que ce qu'il faut faire pour avoir un salaire, c'est aussi quelque chose qu'ils ont envie pour s'intéresser à ce qu'ils font, pour avoir des missions qu'ils considèrent avoir un intérêt, y compris pour la société.
Un intérêt pour la société et puis pour peut-être avoir une vie professionnelle épanouissante.
Une vie professionnelle épanouissante et avec leurs critères. Et les critères de la jeune génération ne sont pas forcément les mêmes que ceux de la génération d'avant. Le sens du travail, le fait d'avoir des missions qui peuvent avoir une utilité, par exemple environnementale, ce sont des sujets qui sont prégnants aujourd'hui dans les critères de certains demandeurs d'emploi, alors que ça n'existait pas il y a quelques années.
Ah ben, c'est quelque chose que je ressens énormément, puisque je fais régulièrement des reportages avec des jeunes de l'IUT, et très souvent, c'est l'environnement qui prime pour eux.
Ah oui, tout ce qui tourne autour de la transition écologique ou énergétique, c'est des sujets qui sont hyper récurrents. Et le fait de participer à cette aventure-là est un levier de motivation qui est assez important. Alors qu'au contraire, certaines activités où ils ont l'impression que ces sujets ne sont pas pris en compte, ils s'en détournent.
Quelles sont les relations avec les chambres consulaires et Pôle emploi ? Ça se passe plutôt bien ?
Là, aujourd'hui, concrètement, la manifestation est organisée par la CCI et par l'Éducation nationale. Et c'est la CCI et la Chambre des métiers de l'artisanat qui nous ont sollicité pour venir y participer. C'est la première fois cette année.
Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui devra être pérenne ?
Alors nous, on nous a proposé de participer, on a accepté et donc on teste. Nous avons proposé à 80 jeunes accompagnés en contrat d'engagement jeune et à une quarantaine de plus de 26 ans de venir aujourd'hui, et ils sont accompagnés par plusieurs conseillers qui sont présents de l'agence Pôle emploi d'Aurillac. Si l'opération est un succès et que ça sert à quelque chose, on sera là avec plaisir les éditions suivantes. Ce que nous souhaitons, c'est évaluer pour voir si ça donne satisfaction à tous. Les premières minutes là, de notre intervention, on a été plutôt un peu débordés, c'est-à-dire on a eu plus de monde que ce à quoi on s'attendait. Donc les premiers signaux sont encourageants.
Pôle emploi, ça permet aussi de faire des statistiques un petit peu. Quelle est la branche qui recrute le plus en ce moment dans le Cantal ?
Alors aujourd'hui, on a beaucoup de recrutements dans le Cantal, dans la santé, dans l'hôtellerie-restauration et tout ce qui tourne autour de l'activité touristique, et dans l'industrie. L'industrie qui marche bien et qui se développe.
Type abeilles, pigagnol ?
Abeilles, pigagnol, la microbiologie, qui recrutent pas mal, et puis aussi tous ceux qui ont besoin de techniciens de maintenance, puisqu'on a des activités économiques qui se sont beaucoup robotisées, mais il faut de l'humain autour de la machine pour la programmer ou la réparer.
On n'a pas voté pour travailler plus. Je pensais avoir gagné mes 35 heures. Dur labeur que l'usine ou d'être ramoneur. Je suis le monde ouvrier, je suis l'agriculteur. Pas peur de travailler, marre d'être mal payé. Je pense pensais avoir gagné mes 35 heures. Je suis l'infirmière, je suis l'instituteur. 40 élèves par classe, les urgences qui n'ont plus de place. Les heures sup, ça nous connaît, on n'a pas le choix et on les fait. Mais qui a voté pour travailler plus, pour gagner plus? J'ai pas décidé de travailler plus, pour gagner. Je pensais que le monde allait changer, que le temps libre, être libéré, avait son intérêt. Des emplois, des métiers d'avenir, une économie d'écologie et de loisirs. Je pensais que le monde allait changer, que nos conneries nous avaient raisonné, que le partage des bénéfices irait dans le sens de la justice. Y'a du vice, je pense trop mais je dois pas être trop con. Je l'ai bien vu, le gros bateau qu'a acheté mon patron. Moi je joue au loto, 30 ans de crédit pour ma maison. Et si je lève le gros lot, je crois que j'arrêterai mon boulot. On n'a pas voté pour travailler plus, pour gagner plus. J'ai pas décidé de travailler plus. Je pensais avoir milité pour une augmentation. Je voulais pouvoir emmener les gosses au parc d'attractions. Le vendredi après-midi, je faisais les commissions. Et le samedi et dimanche, je m'occupais des rejetons. Je pensais avoir milité pour d'autres horizons. Mais les échanges boursiers sont pas de mon opinion. En vacances, hors de France, le boss et mon patron ont décidé que les heures sup seraient ma destination. Je pense qu'un jour on va tous y venir. Le moment fatal de devoir réfléchir. Si l'homme et le travail sont unis à en mourir. Si comme des ânes on va bosser et ne rien dire. Je pense que le boss passe bien à la télé. Mais que l'avenir de mes gosses n'est pas dans ses idées. Que le temps, le vent, les amis, l'écologie font partie de la vie et c'est pour ça que j'ai pas choisi de travailler plus, pour gagner plus. On n'a pas voté pour travailler plus.
Radio Pays d'Aurillac.
Charlotte Régimbeau de l'association Unicité à Aurillac était également présente sur ce forum. Ils emploient essentiellement des services civiques. Je vous invite à écouter attentivement ce qu'ils proposent. Cela concerne beaucoup de monde.
Bonjour, donc Charlotte Régimbeau, coordinatrice d'équipe et de projet à Unicité.
Alors Unicité, qu'est-ce que c'est ?
Alors c'est une association pionnière dans le service civique. Donc actuellement sur Aurillac, on accueille 20 jeunes en service civique cœur et aussi des jeunes en intermédiation.
Je suppose que vous leur donnez des missions ?
Oui, effectivement. Donc ces 20 jeunes sont répartis sur 3 missions. On a une mission sur l'environnement, une mission autour de la prévention, une mission sur le ciné-débat néo-citoyen et notamment aussi une mission sur la solidarité senior.
Alors une mission sur la solidarité senior, c'est Antoine qui va nous en parler. Depuis quand faites-vous ce type de mission ?
Alors, cette mission est depuis plusieurs années sur le Cantal et est aussi développée au niveau national.
Puisqu'Unicité, c'est aussi une association nationale ?
Oui, c'est une envergure nationale et ensuite on est implanté sur toute l'Auvergne-Rhône-Alpes avec une antenne Auvergne.
Vous avez des partenaires particuliers en Auvergne-Rhône-Alpes ?
Alors, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a pas mal de partenaires. Ça va surtout en fait se faire au niveau national et ensuite au niveau local. Donc par exemple, le conseil départemental du Cantal, on a aussi des partenaires comme l'UDAF, comme des centres sociaux, on a tous ces partenaires.
Le CDIFF ?
Oui, effectivement, le CDIFF est un de nos partenaires.
Antoine Beauvois, je suis volontaire en service civique sur la mission Solidarité Senior.
On s'était déjà rencontrés à l'occasion du 25 novembre. Là, c'est tout autre chose.
Oui, là, donc, on vient surtout maintenant pour présenter notre mission et pour présenter un service qu'on aimerait proposer donc, dans le Cantal. L'idée, ça serait de pouvoir faire des visites à domicile auprès des seniors pour les aider dans leur démarche informatique, sur le téléphone, mais aussi de pouvoir leur proposer des visites de courtoisie, donc préparer un goûter, faire du jeu de société, pourquoi pas aller aussi à la médiathèque ensemble. Voilà, l'idée c'est de pouvoir faire sourire les seniors et de passer un bon moment ensemble.
Une aide pour lutter contre la fracture numérique, c'est plutôt sympa ça.
Oui, bah c'est quelque chose qui est vraiment présent, surtout dans notre milieu qui est du coup un milieu rural. Et donc nous on est là toute l'année pour pouvoir essayer d'aider un maximum. Donc on propose aussi des missions collectives, des animations collectives, par exemple la morse tous les mercredis, auxquelles donc on essaye de répondre un maximum à toutes les questions.
Alors des visites de courtoisie, ça consiste finalement à passer du temps avec ces personnes ?
Oui, on n'est pas des professionnels, nous on ne va pas faire le ménage par exemple, on n'est pas là non plus pour faire les toilettes, nous on n'a pas ce... on n'est pas dans ce corps de métier, nous on est vraiment ici pour faire des propositions de courtoisie, pour juste passer un moment ensemble et faire sourire la personne, quoi. C'est surtout l'idée qu'on veut transmettre.
Finalement, ça crée du lien intergénérationnel aussi.
Oui, complètement. C'est important aussi que le lien, du coup, que ce lien-là puisse perdurer et puisse exister. Nous, on arrive à le faire et on aimerait le faire encore mieux et pouvoir le présenter un maximum à tout le monde.
Vous êtes combien de jeunes investis sur cette mission ?
On est 8 jeunes. 8 jeunes répartis en 2 équipes de 4.
Alors vous allez devoir vous déplacer, c'est prévu ça ?
Oui, on a 2 jeunes dans l'équipe qui sont du coup véhiculés. Et donc on peut se déplacer dans tout le Cantal. Nous, l'idée vraiment, c'est de pouvoir aller même dans les plus petits villages du Cantal pour pouvoir aider un maximum de personnes.
Est-ce que vous avez subi une formation quant à l'utilisation informatique et administrative ?
Alors moi, personnellement, j'ai un BTS informatique, donc ça c'est ma formation personnelle. Et ensuite, au service civique, on a des formations qui sont faites par exemple notamment par Ciel Bleu, auquel du coup on a tous les bons gestes de communication qu'on peut faire pour les personnes seniors. Mais on a aussi des formations qui permettent de communiquer mieux sur l'informatique. On a appris aussi avec le site des bons clics à faire des formations plus faciles qui permettent donc de communiquer mieux et d'apprendre le mieux possible et le plus simplement possible.
Qui peut vous contacter ?
Tout le monde. Ça peut être les familles, ça peut être des voisins, ça peut être tout de suite la senior qui a envie d'avoir ce service-là. Nous, l'idée, c'est que tout le monde nous contacte et une fois le premier contact fait, nous, on se déplacera pour pouvoir voir un petit peu ce qu'on peut faire.
Un numéro de téléphone ?
Alors, ça sera Charlotte Régimbaud, donc notre CEP. Ça sera le 06 67 80 37 28.
Si on souhaite bénéficier de cet accompagnement, on appelle et c'est vraiment ouvert à tout le monde.
Oui, tout le monde peut l'avoir et tout le monde peut appeler et c'est un service qui est gratuit, hein, nous on est là de manière volontaire.
Bien évidemment, ça peut être aussi la famille qui va proposer ça à la personne âgée ?
Oui, complètement. Ils peuvent faire le premier appel, nous on prend un rendez-vous avec eux de façon à voir. Et puis même la famille peut nous accompagner sur le premier rendez-vous pour rassurer leurs parents, c'est complètement possible.
Poursuivons notre balade dans les allées de ce 13e forum des métiers et de la formation Cantal à Aurillac. Je vous invite à découvrir d'autres métiers, d'autres formations.
Eh bien, bonjour, je suis l'adjudant-chef Langlois, Frédéric. Je suis sapeur-pompier professionnel au SDIS du Cantal et je suis affecté en tant que formateur au service formation sport du SDIS du Cantal.
Les pompiers recrutent ?
Alors les pompiers recrutent, là dernièrement on a vu paraître dans un journal, le journal La Montagne, pour ne pas le citer, une double page sur le fait que le SDIS, Service départemental incendie de secours du Cantal, recherche des sapeurs-pompiers volontaires. On est dans un département où les sapeurs-pompiers sont essentiellement volontaires. On a vraiment besoin de gens motivés et mobilisés pour pouvoir porter secours dans notre département avec des effectifs qui diminuent et on a besoin de nouvelles recrues.
Quelle qualification faut-il ?
Alors pour être sapeur-pompier volontaire, il n'y a pas de qualification requise. Il suffit de se présenter, donc d'avoir minimum 17 ans. Il n'y a pas de limite d'âge. Il suffit de se présenter au niveau du centre de secours le plus proche de chez soi. On pourra à ce moment-là avoir toutes les renseignements nécessaires pour pouvoir s'engager en tant que sapeur-pompier volontaire. Il existe aussi des conventions qui sont faites avec les employeurs pour les salariés qui permettent de faciliter la formation et les départs en intervention lorsqu'on est au travail, par exemple.
Oui, parce que finalement, ça demande du temps. Et si on travaille... Alors comment ça se passe d'ailleurs ? C'est-à-dire que les employeurs sont rémunérés ou ils laissent du temps ? Comment ça se passe ça ?
Alors, voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le sapeur-pompier volontaire est un sapeur-pompier qui exerce cette activité en plus de son activité professionnelle. On a aussi des personnes qui n'ont pas d'activité professionnelle et qui sont aussi sapeurs-pompiers volontaires, c'est pas incompatible. Ce sont des missions qui sont réalisées sur la disponibilité des agents. C'est-à-dire qu'un sapeur-pompier volontaire va utiliser un portail web sur lequel il va se mettre disponible. Donc ça peut être en journée, ça peut être le soir après le travail, ça sera le week-end, la nuit. En fonction de ses disponibilités, il pourra être alerté sur son secteur d'intervention pour pouvoir porter secours à nos concitoyens. Et si ce temps d'intervention est pendant les heures de travail, les conventions donc permettent à l'employeur de libérer leurs employés. Il existe des subrogations avec ou sans subrogation, c'est-à-dire que soit l'employeur continue de rémunérer le salarié et reçoit les vacations pompiers, ou alors ne paye pas, on va dire, le sapeur-pompier volontaire, mais qui lui sera rémunéré par le SDIS. Ce sont des conventions voilà, qui sont faites entre l'employeur et le service départemental et ça fonctionne très bien.
Oui, c'est un peu à la carte, on va dire.
C'est à la carte et voilà. Et l'objectif, c'est vraiment de faciliter le détachement de nos sapeurs-pompiers volontaires parce qu'on a vraiment besoin d'eux, surtout sur le département du Cantal. Il faut savoir que le département du Cantal, grosso modo, c'est 800 pompiers. On a 700 sapeurs-pompiers volontaires et 100 pompiers professionnels. Donc la force réside
dans le volontariat,
dans la disponibilité de nos sapeurs-pompiers volontaires. C'est vraiment eux qui sont à l'origine de l'assistance aux personnes dans notre département.
Je suppose qu'il faut être un petit peu en forme quand même.
Alors il existe des tests d'entrée, des tests physiques et des tests aussi annuels qui ne sont pas forcément obligatoires, qui sont vivement conseillés, qui sont souvent faits dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur. Ça permet aussi aux sapeurs-pompiers de savoir où ils en sont physiquement tout au long de leur carrière. Ce sont des tests qui sont largement accessibles à ceux qui ont une condition physique normale. Il faut avoir une condition, des tests qui sont des tests d'endurance. Le test de Luc Léger, par exemple, avec un palier minimum à réaliser. Si le sapeur-pompier volontaire ou la personne qui désire rentrer chez nous aime le sport, même le sport loisir, ce sera largement suffisant. On n'est pas des sportifs de haut niveau. On fait du sport pour pouvoir se maintenir en condition et faire en sorte de travailler en sécurité. C'est-à-dire que le bip souvent sonne aussi la nuit. On passe d'une pulsation de 60 pulsations à un pic un petit peu d'adrénaline qui fait que le cœur est mis un petit peu à rude épreuve. Donc il faut avoir une santé cardiovasculaire normale et un certain goût pour l'effort physique. Ça, c'est obligatoire.
C'est le minimum, on va dire.
Voilà, c'est exactement le minimum. Ce qui fait aussi l'attrait pour nous de ce métier, c'est d'avoir aussi la possibilité de réaliser des missions forcément en équipe. Donc que ce soit le sport, l'intervention, la formation, le maintien des acquis en équipe.
C'est un esprit de corps.
C'est l'esprit de corps, c'est exactement ce que viennent chercher beaucoup de personnes aussi chez nous. Et moi j'invite vraiment toutes les personnes intéressées à se renseigner auprès d'un centre de secours, le centre de secours le plus proche de leur domicile et de discuter avec les pompiers qui sont déjà en activité. Je vous dis dernièrement, il y a un très bel article qui est paru dans La Montagne là où le portrait de 4 sapeurs-pompiers volontaires du département, on a un agriculteur, une aide-soignante, un professeur de musique, voilà. Donc on a tout type de profil chez nous et c'est ce qui fait la richesse, on va dire, du volontariat chez les sapeurs-pompiers.
Récemment, certains d'entre vous, d'ailleurs, ont reçu des médailles à la préfecture.
Alors, il y a des médaillés. Alors, des médailles, plusieurs types de récompenses chez nous. Des récompenses qui sont, on va dire, liées directement à l'opérationnel, des interventions marquantes, des actes de courage, de dévouement, voilà, qui font que les pompiers peuvent être décorés à ces moments-là. Des médailles d'ancienneté aussi, pour remercier et valoriser, on va dire, l'engagement des sapeurs-pompiers qui ont des engagements des fois qui vont jusqu'à 20, 25, 30 ans. C'est quelque chose qui fait partie de leur vie. Ils font ça en plus de leur activité professionnelle, donc ça impacte aussi les familles, ça impacte toute une organisation personnelle. Et c'est très bien de saluer cet engagement par le biais de ces récompenses en préfecture. C'est quelque chose qui est très apprécié chez nous. Des cérémonies aussi, les cérémonies qu'on a donc tous les ans. Les Saintes-Barbes aussi qui sont célébrées tous les ans. Et ça permet à tous les sapeurs-pompiers à ce moment-là de se retrouver et auxquels on remet ces médailles, ces diplômes. S'ils ont pu effectuer des formations tout au long de l'année, recevoir leur diplôme. C'est une fierté d'appartenir à cette famille et de porter cet uniforme.
Dernière question, est-ce que être sapeur-pompier volontaire donne des avantages pour la retraite, puisqu'on est en plein dans le sujet à l'heure actuelle?
Alors pour la retraite, liée à son activité de salarié, non. Vous allez pouvoir percevoir la PFR, voilà, c'est une prestation forfaitaire de retraite qui est versée à des sapeurs-pompiers volontaires qui ont un certain nombre d'années d'exercice, au bout de 35 ans de carrière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'activité sapeur-pompier volontaire n'est pas basée sur le bénévolat. Hein, c'est une activité qui est entre guillemets rémunérée par des vacations qui ne sont pas imposables. Donc le sapeur-pompier volontaire peut, voilà, avec cette activité, percevoir certaines vacations qui peuvent lui permettre
un complément de revenu.
Oui. L'ensemble des sapeurs-pompiers, forcément, ne fait pas du tout ça pour l'argent. Hein. C'est pas quelque chose qui permet de vivre.
C'est un sacerdoce.
C'est pas un salaire qui est versé qui leur est versé directement, mais c'est une vacation qui défraie les sapeurs-pompiers et qui leur permet de compléter leurs revenus en plus de leur activité de salariale.
Oh, that's great. Nice. Fêtes du foyer communal, tous nos petits gars sont occupés à ranimer la flamme des femmes de sous-officiers au bal des sapeurs. Allons-y. Ok. Des fêtes du foyer communal, une lance incendie est tombée amoureuse d'un extincteur. Et alors, au moment où ils vont s'embrocher, il arrive un sapeur adjudant qui déterre la hache de la vitrine de guerre et sépare le couple ensanglanté au bal des sapeurs. Musique, DJ Malherbe, au flûte. Pompier avec un casque argenté qui lui arrive jusqu'aux genoux, qui pleure en silence parce qu'il a perdu sa flamme, une grande rousse incendiaire qui est partie du bal des sapeurs-pompiers avec un sapeur. Oh,
Radio Pays d'Aurillac.
Audrey Bach, je suis ingénieure formation au service formation de la Chambre d'agriculture. Au niveau de la Chambre, on a du coup tout ce qui est coordination du coup du pôle agricole. Pôle agricole, agroalimentaire et environnemental, donc sur lequel on se trouve en ce moment. Et donc là, on a tout un tas d'animations avec tous les acteurs des métiers agricole. Donc on accueille à la fois les lycées Aurillac, Saint-Flour, Mauriac, l'IUT d'Aurillac pour les formations du coup en agriculture. Et on accueille aussi du coup des responsables professionnels qui sont présents sur le stand, donc des agriculteurs, pour présenter le métier d'agriculteur aux jeunes qui viennent nous voir.
Est-ce qu'il y a un engouement des jeunes pour l'agriculture ?
Un engouement, oui et non, ils sont intéressés, ils se posent beaucoup de questions. Donc ils viennent sur le stand vraiment soit avec déjà des informations, déjà une connaissance du monde agricole, et ils cherchent à en savoir plus et à savoir justement où se renseigner, où aller, sur quelle filière du coup se...
Oui, parce qu'on est un département agricole, donc en général...
On est un département agricole, donc ils veulent savoir sur quelle filière s'orienter pour justement soit devenir agriculteur, soit travailler avec le monde agricole. Donc ça peut être la chambre d'agriculture, ça peut être tout un tas d'organismes du coup pour venir en aide avec les agriculteurs. Et à contrario, on a des jeunes qui ne savent pas ce que c'est l'agriculture, qui viennent pour poser des questions, pour s'intéresser.
Je suppose qu'ils sont tous intéressés par l'écologie ?
Alors, par l'écologie, oui, même si ce n'est pas le sujet principal quand ils viennent nous parler.
Est-ce que l'agriculture recrute en ce moment dans le Cantal ? Je suppose que oui.
Oui, l'agriculture recrute énormément dans le Cantal. Il y a plein d'offres, donc avec plein de partenaires différents, sur plein d'activités différentes aussi. Donc il y a un agriculteur, un salarié agricole, à la fois aussi sur des postes plus de techniciens, de fromagers aussi, vraiment, on a de la fourche à la fourchette, si je peux dire.
Oui, vraiment, de la fourche à la fourchette, c'est une belle image.
Voilà.
Comment peut-on rentrer dans ces métiers-là ? Je suppose qu'il y a tous les niveaux, je pense que ça va du CAP jusqu'au bac pro, voire BTS, voire au-delà.
Oui, tout à fait. Alors après, en fonction des différents métiers qui sont voulus, si on veut faire technicien ou autre, effectivement, on peut passer par un CAP, puis ensuite s'orienter vers un bac plus 2. Si jamais on veut devenir agriculteur, là, il n'y a pas d'âge et il n'y a même pas de diplôme vraiment spécifique à avoir, si ce n'est que d'avoir des connaissances agricoles et d'avoir le BPREA pour avoir quelques capacités. Mais on peut très bien aller à un bac plus 5 pour faire agriculteur ensuite, voire sortir d'un CAP et d'un bac pro pour devenir agriculteur.
Je suppose que si on a une formation, on va dire à bac plus, c'est plus facile d'obtenir des prêts auprès des banques.
Pas spécialement, puisque ça dépend vraiment de chaque projet. Chaque projet est différent. Donc ça dépend vraiment de son projet, de là où on veut aller. Le niveau d'études n'est pas un critère, on va dire, pour s'installer par rapport aux banques, en tout cas.
Bonjour, donc je m'appelle Marie. Je suis agricultrice sur la commune de Prunay. Et donc j'ai des vaches laitières.
Vaches laitières, uniquement le lait, pas de fromage ?
Pas de fromage, uniquement le lait.
Des projets dans ce sens dans l'avenir ou pas du tout ?
Pas pour le moment.
Comment êtes-vous devenue agricultrice ?
J'ai des parents agriculteurs, donc j'ai repris l'exploitation familiale. Mais avant ça, j'ai été salariée. Donc en fait, j'ai pris mon temps finalement pour aller voir un petit peu ailleurs. Et puis gagner en compétences, gagner en expérience. Donc j'ai été salariée et donc je m'occupais du dossier emploi, notamment dans le secteur agricole. Donc j'ai aidé les agriculteurs à trouver des salariés pour se libérer du temps, pour prendre des vacances, pour simplement avoir un complément de main-d'œuvre. Donc j'avais toujours un pied dans l'agriculture et puis un jour j'ai décidé de m'installer. Donc après 15 ans de salariat, donc j'ai fait une formation, un BPREA, et ensuite j'ai été accompagnée par la chambre d'agriculture pour monter mon projet d'installation. Voilà.
C'est important d'être accompagnée par la chambre d'agriculture ?
Ah oui, c'est important parce que on a une vision, on a un projet en tête et puis après ça nous permet de le poser en vrai sur le papier et puis de voir un petit peu si entre ce qu'on prévoit et la réalité du terrain aussi, ça nous interpelle sur notre projet, ça nous permet davantage de réflexion et puis on est orienté vers des conseillers qui nous accompagnent pour chiffrer notre projet aussi, donc c'est important.
Donc une aide avec, je suppose, des ingénieurs, ce genre de choses ?
Des techniciens, oui, conseillers, voilà.
Après, au niveau des aides financières, quand on veut monter une exploitation ou reprendre une exploitation, comment ça se passe ? Comment ça s'est passé pour vous, en tout cas ?
C'est toujours en lien avec le service de la Chambre d'agriculture. Donc en fonction de mon profil, de mes compétences, j'avais droit à certaines aides, liées à l'investissement notamment. Il y a des aides de base et puis après il y a des aides en fonction des projets. Donc moi notamment, je suis rentrée dans une démarche qualité AOP Cantal. Donc il y avait un petit coup de pouce supplémentaire pour cette démarche-là. Donc tout dépend en fait du projet, c'est vraiment lié à...
Des aides à la carte.
Voilà, oui, il y a une trame commune et puis après c'est en fonction des projets de chacun, quoi. Donc c'est vrai que là, il faut se rapprocher des personnes qui sont compétentes pour...
Pour démarrer son activité.
Voilà, tout à fait.
Est-ce qu'on peut être agriculteur et avoir une vie sociale ?
Ah oui, bien sûr, je suis là aujourd'hui, donc la preuve en est. On a le choix, hein. on peut être agriculteur et rentrer dans l'exploitation, se fermer complètement, faire le boulot et on trouvera, il y a de quoi faire. Et puis on peut aussi s'ouvrir à l'extérieur et ça, moi, c'est très important parce que je crois que c'est important de se remettre, de s'ouvrir vers l'extérieur, d'être curieux, de découvrir de nouvelles pratiques. On se côtoie entre agriculteurs, mais il faut aussi aller vers d'autres personnes, y a plein de choses à faire, plein de choses à voir. Après, il faut savoir se libérer du temps. C'est vrai qu'on peut, c'est pas forcément simple.
Oui, parce que les vaches, elles, c'est tous les jours qu'il faut s'en occuper.
Oui, bien sûr, c'est un travail quotidien. Voilà. Après, il y a des solutions qui existent pour se faire remplacer, pour se libérer. Faut pas hésiter aussi à le faire.
Il n'y a pas des difficultés de recrutement quand même pour se faire remplacer ?
Ah si, bien sûr. Il y a beaucoup de secteurs qui manquent de salariés, mais c'est vrai que le secteur agricole a besoin de main, elle a besoin de chefs d'exploitation pour renouveler les générations, et puis elle a besoin de salariés aussi pour permettre justement aux agriculteurs de prendre des congés, de profiter de la famille, de s'investir dans des associations, dans des choses sur leur commune, avoir des responsabilités à l'extérieur, c'est très important.
J'entends les oiseaux qui chantent à la ferme du bonheur. Chalala, 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 chalala. Soyez les bienvenus à la ferme du bonheur. Je n'ai qu'une ferme chancelante, moulin trop vieux, un bout de terre en pente et trois arbres au milieu. Mais il suffit parfois pour être heureux et comblé d'un peu de bonne terre et de bonne volonté. Chalala, tu veux les aider. Chalala, tu veux les aider. J'entends les oiseaux qui chantent à la ferme du bonheur. Hey, j'entends les oiseaux qui chantent à la ferme du bonheur. Mais quand le soir je monte sur ma colline en fleurs, je respire dans le silence la paix et le bonheur. Ah, chalala, tu veux les bébés. Chalala, tu veux les bébés. Allez tous ensemble, chalala, je vais les aider, chalala, je vais les aider, la porte est grande ouverte à la ferme du bonheur.
Je m'appelle Fahd Mohamed, je suis coordinateur de projet R&D au sein de l'entreprise Biosindustrie, au sein du service recherche et développement.
C'est un pôle innovant dans le Cantal depuis un petit moment et c'est un pôle qui marche plutôt très bien.
Alors oui, c'est un pôle qui marche très très bien en ce moment. Notre entreprise est en pleine expansion en ce moment, on recrute beaucoup. Et moi, mon travail, en fait, c'est de faire la mise en forme du produit fini après que la faisabilité de la production de la bactérie soit faite en R&D.
À quel domaine est destiné ce type de bactérie ?
Alors, moi, je travaille pour le compte de nos clients à l'international. Et nos clients à l'international nous demandent de faire une production d'un médicament pour une étude clinique de phase 1. Du coup, c'est pas pour une mise sur le marché direct, c'est pour permettre à nos clients de faire leurs études cliniques avant de pouvoir commercialiser leurs produits.
Donc, en phase de test.
C'est ça.
Est-ce que dans votre entreprise, vous avez des contrats de qualification ? Est-ce que vous avez de l'alternance ?
Alors oui, au sein du service R&D, nous avons plusieurs alternants, que ce soit dans le domaine de la fermentation ou de la lyophilisation. Et au sein de l'entreprise en général, on a des alternants qui travaillent avec nous. On travaille avec eux et avec leurs écoles en partenariat pour leur permettre d'évoluer et d'acquérir des compétences au sein de notre entreprise.
Des jeunes de l'IUT d'Aurillac ?
Oui, des jeunes de l'IUT d'Aurillac, on en recrute. Et oui.
Donc, bonjour, moi je suis élève en troisième année de génie biologique à Polytech Clermont-Ferrand.
Votre présence ici aujourd'hui, elle est importante puisqu'il y a un pôle génie biologique très important sur Aurillac et le Cantal en général.
Oui, il y a beaucoup de jeunes collégiens et lycéens qui sont intéressés par les métiers de la biologie, mais aussi par l'ensemble des cursus que propose Polytech, parce qu'il n'y a pas que le génie biologique, il y a aussi d'autres spécialités. Et donc on vient présenter toutes les spécialités que propose Polytech.
Alors vous pourriez nous faire un petit tour d'horizon des spécialités ?
Alors à Clermont-Ferrand, il y a génie biologique, génie civil, génie physique, génie des systèmes de production, ingénierie mathématique et data science et génie électrique.
Oui, c'est quand même une offre très complète.
Oui, et surtout qu'il y a plusieurs écoles Polytech en France et toutes les écoles proposent des spécialités différentes, donc il y en a vraiment pour tous les goûts.
Alors ce sont des formations en alternance ?
Il y en a certaines, mais pas toutes.
Lesquelles par exemple ?
Par exemple, génie des systèmes de production se fait, donc les 3 ans d'ingénieur se font en alternance, mais dans d'autres filières, on peut faire l'alternance en 5e année.
Donc ce sont des études longues quand même.
C'est ça, il y a 2 ans de prépa, donc soit une prépa classique, soit une prépa intégrée, et 3 ans de cycle ingénieur qui font 5 ans d'études au total.
Et donc un diplôme d'ingénieur.
C'est ça.
Vous, bientôt finalement, plus que 2 ans, c'est ça ?
C'est ça, il reste 2 ans.
Confiante dans l'avenir ?
Oui, ça va. Ça,
et des projets professionnels déjà ?
Le problème, c'est que être ingénieur, c'est très vague. Et que pour l'instant, on n'a pas énormément d'informations sur les différents types d'ingénieurs. Mais à l'aide des stages que l'on effectue au cours de nos études, ça nous permet de savoir vraiment ce qu'on veut faire à l'avenir.
Plus de stages sur les 2 dernières années ?
C'est ça. Là, en fin d'année, de première année d'ingénieur, on a un stage ouvrier à faire. Et en 4e année, on a un stage de 4 à 6 mois à l'étranger. Et ensuite, en 5e année, on a un stage de fin d'études de 6 mois.
En maîtrise d'une autre langue, je suppose ?
C'est ça. Pour devenir ingénieur, on est obligé d'avoir une certification en anglais. Donc d'obtenir un diplôme, sinon on ne peut pas être ingénieur.
Je m'appelle Valérie Lherme et je suis donc au service apprentissage CAD à la Chambre de métiers de l'artisanat d'Aurillac.
La Chambre des métiers, c'est une chambre consulaire, c'est quand même quelque chose de très important. C'était évident que vous soyez présent sur ce salon. C'est la première année ou...
Ah non, du tout. On a toujours été présent sur ce forum. Et là, depuis 3 ans, nous avons notre véhicule, donc l'Artimobile, qui est là pour présenter donc, les métiers avec des casques virtuels. Donc c'est quand même assez intéressant pour les jeunes de connaître le métier via ces petits films. Et nous avons également des tablettes, donc on est quand même pas mal connectés pour vraiment leur présenter ces formations dans les métiers de l'artisanat.
Donc vraiment orienté vers la jeunesse, en tout cas pour leur donner envie de choisir un métier qui tend vers l'artisanat.
Oui, tout à fait. Nous, on est plutôt ciblés effectivement au métier de l'artisanat. Bon, après, on en a quand même pas mal, hein. Il en existe 250. Après, moi, je suis aussi là pour valoriser un petit peu donc, l'apprentissage. Maintenant, on peut faire des contrats jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, c'est quand même aussi intéressant pour des personnes qui veulent se reconvertir, enfin voilà, et se former dans ces métiers-là qui recrutent énormément.
Qui recrutent énormément et qui, en plus, proposent de la formation professionnelle continue.
Oui, tout à fait, parce que après voilà, un apprentissage, ce n'est pas qu'un CAP. On peut faire jusqu'à Bac plus 2, voire Bac plus 3. Donc effectivement, maintenant, il faut savoir valoriser cette orientation-là.
Radio Pays d'Aurillac.
Et main d'or. Soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portails verrouillés, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents. Monstre de métal qui va dérivant.
Je voudrais travailler encore,
forger l'acier rouge avec mes mains d'or.
Travailler encore,
acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré, là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Faudrait
travailler
encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or.
Travailler encore,
acier rouge et mains d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y'a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts.
Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou.
Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y'a plus rien à faire. Voudrais travailler encore. Forger l'acier rouge
avec mes mains d'or.
Travailler encore, acier rouge
et mains d'or.
Travailler
encore,
forger l'acier rouge
avec mes mains d'or.
Travailler encore, forger l'acier rouge.
avec mes mains d'or. Travailler encore, assis rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or.
Ça va, vous êtes bien ?
Bonjour, David Lopez, professeur au lycée Raymond Corta, en service et commercialisation.
Et vous ?
Bonjour, je suis Christophe Fabrega, professeur de cuisine au lycée Corta.
Quelles sont les formations dispensées dans ce lycée ?
Alors, pour ma part, dans tout ce qui touche au commerce, on a la formation donc Bac Pro, Service et Commercialisation. On a également une formation nouvelle, où on a la chance, le lycée Raymond Corta, d'être un des 5 lycées français à la dispensée, qui est le CAP Crémier Fromager.
L'un des 5, donc c'est quand même très peu.
C'est très peu, en effet, on a cette chance-là. Et on s'est donné, justement, pour pouvoir avoir cette chance-là. Et on a un territoire aussi qui est demandeur de ce type de formation.
Est-ce que ce sont des métiers où ça recrute ?
Ce sont des métiers qui recrutent, effectivement. C'est des métiers en tension. Hein. On voit très bien les difficultés qu'ont les professionnels de l'hôtellerie, la restauration à recruter. Et donc nous, on essaye de valoriser cette filière et de donner envie à des jeunes de venir nous rejoindre pour les former et qui rentrent dans la vie active et qui renforcent un petit peu ce vivier qui s'est un petit peu épuisé. Hein. Voilà.
Ce sont des formations qui vont jusqu'au bac et au-delà ?
Alors on a la chance d'avoir donc des formations qui sont de niveau CAP, que ce soit sur la cuisine ou le crémier fromager. Dans un deuxième temps, donc on a le bac pro service et commercialisation ou organisation et production culinaire, qui est plutôt cuisine. Et ensuite, on propose depuis l'an dernier à nouveau le BTS avec l'option service, l'option cuisine, qui se fera en 2 ans et sous le biais de l'apprentissage.
Ce qui peut ouvrir d'autres portes éventuellement plus tard.
Des niveaux de compétences sur lesquels on fait évoluer nos jeunes apprenants qui peuvent leur permettre après de prétendre à des postes à responsabilité et d'être sélectionnés, puisque on voit aussi que bon nombre de personnes viennent dans nos lycées pour voir nos jeunes et éventuellement les recruter sur un futur poste.
Oui, ce qui est quand même intéressant. La cuisine, est-ce que ça intéresse les jeunes ?
La cuisine intéresse les jeunes et on est... En fait, ça, de plus en plus, puisqu'il y a la télé qui a mis un peu le pied dans ce métier, il y a Top Chef, il y a pas mal d'émissions qui ont fait sortir un peu notre métier. Et du coup, ces jeunes sont intéressés par la créativité d'abord. Hein, avant de parler du métier, ce qui leur plaît, c'est de créer des recettes, faire de la pâtisserie. Il y a pas mal de choses à faire. C'est un métier qui est en devenir encore plus qu'avant. Voilà, les conditions s'améliorent, les salaires, on voit qu'il y a un travail qui est fait et on espère que ça va aller dans le mieux parce que ça a été souvent un métier un peu dénigré. Mais c'est un super métier qui donne des... On peut faire pas mal de choses. Hein. Moi, je suis un ancien pro, je suis devenu prof. Je pense qu'il y a quelque chose à faire et j'invite les jeunes à venir nous voir et déjà faire des stages dans notre lycée.
Oui, parce que maintenant, la cuisine, c'est une cuisine innovante. Ce n'est plus comme avant une cuisine de recopie où on respectait les recettes. Maintenant, on innove énormément en cuisine.
On innove énormément. On remet au goût du jour des recettes anciennes. Voilà. Et ça, les plus créatifs, surtout les jeunes qui sont connectés, sont au courant des nouveaux produits. On respecte les saisons. On peut s'éclater, hein, c'est le cas de le dire. Après, ça reste un métier difficile. Mais il y a des choses importantes et très intéressantes à faire dans le monde entier, on peut le dire. On peut s'expatrier un peu partout. La France est bien placée, on va dire qu'elle est, dans le top 3 des cuisines qui plaisent, en fait. Hein. Voilà.
Est-ce que ces formations sont strictement réservées aux jeunes ou est-ce que vous voyez de plus en plus de jeunes adultes venir changer éventuellement de formation ?
Alors pour répondre à votre question, nous on travaille essentiellement sur un vivier de jeunes apprenants. Dans un deuxième temps, on est en collaboration avec le Greta des Monts du Cantal qui eux accompagnent justement les adultes et montent la formation et nous dispensons les cours.
ça permet d'avoir une offre très complète.
Tout à fait, c'est ce qu'on appelle des plans individuels de formation, où justement on individualise la formation pour répondre au mieux aux besoins et aux attentes. On voit par exemple de plus en plus des personnes qui veulent monter des chambres d'hôtes, des gîtes, et il y a des formations cuisine en un an justement pour valoriser ce qu'on appelle les produits du terroir et essayer de respecter un peu aussi la loi Egalim et essayer de s'approvisionner un maximum en produits locaux. Et il est vrai qu'on valorise ces produits-là, comme disait le chef Fabrega, en fonction de la saisonnalité, en fonction des attentes, en respectant les produits, sans recopier, comme vous l'avez dit justement tout à l'heure, mais en amenant sa créativité, son savoir et son parcours professionnel sur ça.
Donc je suis Bernadette Ginès, je suis vice-présidente en charge des ressources humaines à la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac.
Et vous ?
Donc Sandra Nugou, directrice de cabinet à la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac.
Vous représentez la fonction publique territoriale, si je ne m'abuse ?
Tout à fait, c'est ça.
C'est une fonction publique qui recrute ?
C'est une fonction publique qui recrute.
Comment entre-t-on dans la fonction publique territoriale ?
Alors aujourd'hui, il y a plusieurs façons de rentrer dans la fonction publique territoriale. La voie classique, c'est la voie des concours administratifs. Et ensuite, effectivement, on répond donc à des offres d'emploi sur la base des concours qu'on a pu obtenir. Mais aujourd'hui, donc, face aux besoins en recrutement de la fonction publique, il y a aussi moyen de rentrer dans la fonction publique par le biais de contrats. Donc on a des contractuels et pas seulement des gens qui ont le statut de fonctionnaire, qui sont des contrats de droit public, mais qui ne sont pas soumis au statut de la fonction publique.
Est-ce que ce sont des métiers qui attirent les jeunes ?
Alors aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que comme dans nombre d'entreprises, les collectivités territoriales ont quelques difficultés pour recruter. Parce qu'on recrute des catégories C qui sont aussi des catégories dans lesquelles on peut rentrer sans avoir de concours.
Alors quels sont les types d'emplois recherchés ?
Alors ça va des emplois techniques, il y a des emplois autour de l'eau, autour de l'assainissement, autour du traitement des déchets, de l'environnement au sens des espaces verts. Et après, on a aussi des catégories qui sont plus des catégories professionnelles administratives dans le monde. Alors, il y a la communication, il y a le droit, parce qu'on a un service juridique, il y a l'informatique, la comptabilité, les finances.
Tout ce qui est finance. On a aussi aujourd'hui des spécificités, puisqu'on les collectivités vont sur des missions particulières, où on recrute des chargés de mission avec des spécificités. Donc, on les recrute pour des durées limitées, par exemple sur le projet alimentaire de territoire, sur la labellisation pays d'art et d'histoire. Donc là, c'est des missions qui sont des missions courtes dans le temps. C'est des contrats en général de 3 ans, ce qu'on appelle des contrats de projet, qui pourraient être amenés à être un peu prolongés, mais sur des missions ou des projets spécifiques.
Est-ce qu'il y a dans la fonction publique de la place pour des jeunes diplômés d'études supérieures ?
Oui, très largement, puisque donc, notamment donc, sur des postes de catégorie B, de catégorie A, où effectivement, oui, il y a une place tout à fait pour des jeunes qui sont issus d'études supérieures.
Catégorie A et B, c'est uniquement sur concours ?
Alors, pas nécessairement, parce que je vous le disais tout à l'heure, on a aussi maintenant des recrutements par voie contractuelle pour pallier justement au désamour qu'il y a aujourd'hui pour la fonction publique et pour les concours de la fonction publique.
Il était impossible de visiter et d'interviewer tous les stands et les intervenants de ce forum des métiers et de la formation. Je tiens à remercier tous ceux qui ont pris de leur temps afin de répondre à toutes mes questions. N'oubliez pas l'initiative d'Unicité si l'un de vos proches, senior, a besoin d'un petit coup de main en informatique ou tout simplement besoin de compagnie. Téléphonez à Charles Tréjimbeau au 06 67 80 37 28 et c'est totalement gratuit, il est bon de le souligner. Votre émission des chroniques terriennes s'achève pour aujourd'hui. Si un sujet vous passionne, que vous souhaitez vous exprimer à la radio, n'hésitez pas à me contacter au 07 69 25 96 69 ou bien sur Instagram, chronique terrienne 15. Retrouvez votre émission et toutes les émissions de Radio Pays d'Aurillac 107.4 FM sur le site internet radiopaysdaurillac.com.
La ville de demain sera cet ensemble où chacun sera déterminé dans son travail et ses loisirs.
Chronique terrienne, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.